Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Le Conseil de sécurité s'est réuni récemment à New York pour examiner le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo. Rapport présenté au Conseil par Roger Meece, le représentant spécial de Ban Ki-moon en RDC et chef de la MONUSCO. Ce document rend compte du travail de la MONUSCO par rapport à la détérioration de la situation sécuritaire dans les provinces de Kivu à l'est de la RDC. Zeno Mukongo Ngai, le ministre conseiller et chargé d'affaires intérimaires de la mission de la RDC auprès de l'ONU à New York, était présent à cette réunion. Il décrit la situation qui prévaut actuellement dans son pays. Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Jean-Pierre Amissi Ramazani.
Moi, je m'appelle Zeno Mukongo Ngai. Je suis de formation juriste et avocat, mais pour l'instant, je preste comme diplomate et donc je suis ministre conseiller à la mission permanente de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies. Et pour le moment, je fais office de chargé d'affaires ad intérim à New York, au siège de l'Organisation des Nations Unies.
On vous a entendu au nom de votre pays au Conseil de sécurité. Qu'est-ce que vous avez dit aux membres du Conseil de sécurité au cours de cette réunion?
Nous avons dit trois choses principalement. C'est-à-dire que nous avons d'abord tenu à mettre un accent très particulier sur le fait que la République démocratique du Congo était un pays en voie de stabilisation et que l'effort est en train d'être fait de manière à permettre aux autorités congolaises de contrôler la situation sur toute l'étendue du pays, notamment sur le plan militaire, sécuritaire, sur le plan des forces de la police. Et donc, je voulais que ce message-là passe. C'est en cela que nous avons parlé de l'évaluation, des rapports conjoints d'évaluation. C'est-à-dire que nous voulions que lorsque le Conseil de sécurité veut renouveler le mandat de la mission des Nations Unies au Congo, que l'on tienne compte des évolutions et des avancées qui ont eu lieu dans le cadre de la coopération entre la RDC et la mission des Nations Unies. Surtout sur le plan militaire, il y a eu beaucoup d'avancées qui avaient été réalisées et nous tenions à ce que ces avancées-là soient connues des membres du Conseil de sécurité eux-mêmes, parce qu'en fait, il faut savoir que le financement de cette mission dépend aussi des bailleurs de fonds. Et les bailleurs de fonds tiennent compte des avancées, des évolutions qu'il y a sur le terrain pour être encouragés à continuer à contribuer.
Quand vous parlez des avancées sur le terrain, sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, est-ce que ce n'est pas un discours qui est un peu déconnecté des réalités, là, sur place, dans votre pays, à l'Est surtout?
Non, le discours n'est pas déconnecté des réalités. Si vous vous situez à la date d'avant le mois d'avril, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur le terrain. Les forces armées de la République démocratique du Congo avaient, à un certain moment, eu la maîtrise de la situation dans ce sens que le combat contre les groupes armés avait connu beaucoup de succès dans plusieurs localités. Donc, la situation était en phase d'être récupérée totalement lorsque nous nous situions dans la période d'avant le mois d'avril. Mais parce que la réunion intervient après le mois d'avril, vous comprenez que nous sommes dans une phase où une rébellion est née et a commencé à faire des avancées sur le terrain, ce qui fait que ça a perturbé les efforts dont je suis en train de parler, les avancées qu'il y a eu dans notre coopération avec la MONUSCO. C'est pourquoi on a l'impression maintenant que la situation est pire. Mais il faut dire que, à un certain moment, on était en train de sortir du pire. Nous sommes dans une étape où on nous a fait pratiquement rentrer dans une situation, mais il faut dire qu'elle n'est pas désespérée, cette situation-là, compte tenu de la force du feu de l'armée congolaise pour le moment.
Oui, mais depuis un certain nombre d'années, c'est comme si votre gouvernement n'est toujours pas en mesure de maîtriser la situation sécuritaire à l'est de votre pays.
Il faut dire que d'abord l'est du pays, c'est une partie assez difficile, pour la pure et simple raison que nous avons accueilli à l'époque des réfugiés rwandais qui sont venus en masse, pas seulement des civils, il y a eu des militaires aussi. Plusieurs groupes armés se sont formés dans cette partie du pays-là. Nous avons été envahis par les pays étrangers, le Rwanda et l'Ouganda. Nous sommes sortis de cette situation de l'agression et tout de suite après, nous avons commencé à nous battre contre les groupes armés, c'est-à-dire à commencer à les éliminer. Les efforts ont été menés sur le plan militaire, sur le plan diplomatique. Nous avons amélioré pratiquement nos relations avec les pays voisins. Nous avons fait en sorte que les groupes armés qui étaient favorables à la réintégration dans l'armée soient réintégrés. Et cet effort est en train de se poursuivre. C'est ce qui a fait que, sur le terrain, il y a eu un élan de reprise qu'on a senti, en dépit du fait que, pour le moment, nous avons été stoppés dans cet élan-là. On est obligé de libérer certaines contrées qu'on était en train de contrôler parce qu'il faut renforcer le front où les combats se sont déroulés ces derniers temps.
On a appris que les soldats rwandais qui combattaient dans les rangs des mutins du CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple, et de la nouvelle rébellion appelée M23, ont été arrêtés au front à l'est du pays. Quelle est la position ou la réaction du gouvernement congolais devant cette situation vis-à-vis du Rwanda voisin, Zeno Mukongo?
À un certain moment, le pays était pratiquement scindé en plusieurs parties et nous avions plusieurs armées. Donc si vous faites un recul, par exemple, dans le passé, vous allez voir que il y avait à l'époque l'armée gouvernementale, il y avait l'armée du MLC, il y avait l'armée du RCD, il y avait l'armée de ceci, l'armée de cela. L'effort que nous avons fait, tout ce monde-là étant congolais, était que l'on puisse réintégrer tous ces groupes armés pour former une armée nationale forte et puissante. C'est cet effort qui est en cours actuellement. Mais il y a des groupes qui sont réfractaires. Le CNDP était partie intégrante de l'armée nationale. Ils se sont dissociés, ils ont fait défection. Et vous avez vu aussi que récemment ici, Bosco Ntaganda, qui faisait partie intégrante de l'armée, a fait défection et avec lui ses acolytes qui l'ont suivi. Donc c'est un peu ça, c'est cet effort-là qui est en train de continuer en dépit du fait que il y a des réfractaires qui continuent à faire défection.
Bosco Ntaganda, parlons de lui, effectivement. Est-ce que votre gouvernement compte l'arrêter pour le déférer devant la CPI?
Nous comptons l'arrêter pour le juger nous-mêmes d'abord cette fois-ci, même si nous savons qu'il est sous mandat de la Cour pénale internationale. Et la raison pour laquelle nous voulons le juger, c'est à cause des exactions qu'il vient de commettre. Il a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, l'enrôlement des enfants, des viols, des assassinats, des meurtres et toutes sortes de choses que vous savez. Et pour cette raison-là, nous l'arrêterons certainement et nous allons le juger en République démocratique du Congo.
Qu'est-ce qu'il y a compte tenu du fait qu'on a arrêté parmi les rebelles du nouveau mouvement dont on parle, du M23 ou des acolytes de Bosco Ntaganda, des soldats rwandais? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il y a un message particulier par rapport à vos voisins, particulièrement au Rwanda?
Non, c'est regrettable de constater que, alors que nous avons pratiquement arrangé nos relations avec le Rwanda, que nous avons des accords de collaboration et de coopération qui évoluent très bien, que subitement nous apprenions des nouvelles du genre où le Rwanda est en train de former, d'entraîner, de recruter des hommes qu'il est en train de retourner contre la République démocratique du Congo, et notamment dans cette rébellion de Bosco Ntaganda. Nous avons des preuves irréfutables qui démontrent que le Rwanda est effectivement en train d'aider le CNDP. Vous vous rappellerez que lors de l'offensive des forces armées congolaises, ils ont été repoussés jusqu'aux confins, pratiquement à la frontière avec le Rwanda, et que sur leur fuite, nous avons récupéré des tonnes de matériel qui sont estimées à plus de 38 tonnes, oui, de matériel que nous avons saisi sur eux. Mais en dépit de cela, alors qu'ils ont dans leur fuite pratiquement tout perdu, il est curieux de constater que maintenant, ils sont mieux équipés qu'ils l'étaient avant. Et donc, tout porte à croire, les preuves sont là, que le Rwanda est en train de fournir pas seulement du personnel, même du matériel au M23 et à tous ses acolytes. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas des suppositions, mais c'est une réalité. La première démarche consistait à dénoncer. Pour le Premier ministre, il sera question de poursuivre d'abord la guerre contre les mutins, les neutraliser totalement, mais en même temps, on n'évite pas la possibilité de dialoguer avec le Rwanda.
La MONUSCO a concentré le gros de ses troupes à l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Kivu, dans le nord et dans le sud Kivu. Et ce sont justement ces régions qui sont en proie à toutes ces rébellions, à toutes ces guérillas, à toutes ces exactions causées par les groupes armés, tant nationaux qu'étrangers. Alors, en quoi la MONUSCO soutient-elle votre pays, notamment sur le plan de la défense et de la sécurité?
La MONUSCO est en train de faire un travail assez appréciable dans ce sens que Ils nous aident d'abord dans la formation de nos forces de sécurité, y compris de l'armée d'ailleurs, de la police. Ils sont en train de nous aider logistiquement également. Et vous savez que le mandat actuel de la MONUSCO est un mandat qui est placé sous la protection de la population civile. Donc le point le plus important, c'est celui-là. Pour nous, nous considérons que tant que nous sommes en train d'éradiquer les groupes armés, la MONUSCO nous aidera à protéger la population civile. Cela n'est pas une responsabilité exclusive de la MONUSCO, nous le faisons nous-mêmes. Nos forces sont partout. Vous avez appris récemment que un commandant militaire a dû restituer à la population civile des biens qui avaient été volés par tous ces bandits-là, qui avaient été pillés par des bandits qui se mutinent. Ils ont récupéré ces biens, ils les ont restitués à la population. C'est cela notre rôle, le rôle de notre armée. Et c'est aussi pour cela que la MONUSCO est en train de nous aider. Nous ne pensons pas que la MONUSCO fait du mauvais travail. Je crois qu'ils font du bon travail.
Mais sur le terrain, ce sont les populations qui souffrent. Et les populations qui sont déplacées par milliers, par centaines de milliers. Ce sont des populations qui sont tuées, maltraitées partout dans l'est du Congo. Voilà le décalage entre les intentions peut-être de votre gouvernement et de la MONUSCO par rapport à la situation sur le terrain.
Nous nous rendons compte effectivement de ces réalités, mais le fait que les populations se déplacent, c'est le résultat de la rapine et des incursions des groupes armés d'abord. Et pour le moment, nous pouvons dire que c'est le résultat des combats qui sont en cours. Nous sommes tout à fait conscients de cela. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque le Premier ministre s'est déplacé, est allé à l'Est, il est allé dans les zones de combat. Il est arrivé dans les zones de combat et il n'y est pas allé seul avec une forte délégation ministérielle, avec du matériel, avec des vivres qui ont été distribués à la population. Évidemment, la population de l'Est, elle est assez grande, mais ils ont amené quand même des vivres qui ont pu aider tant soit peu la population qui est en déplacement. Les solutions sont en vue, le gouvernement se bat pour sécuriser toutes ces personnes, tant ceux qui sont à l'intérieur que ceux qui se sont déplacés à l'extérieur. Et ça veut dire que on est conscient de la situation et un effort est en train d'être fait.
Congo, je voudrais comprendre une chose. Pourquoi l'Est du Congo est la poudrière de la RDC? On ne parle que de l'Est du Congo, sécurité, insécurité à l'Est du Congo. Pourquoi cela?
Il faut dire que l'Est du Congo est convoité à cause de ses richesses et nous avons le malheur d'avoir des voisins qui lorgnent toujours de notre côté. C'est cela le grand problème. Ce sont les richesses. Le coltan, par exemple, est exploité à l'Est. Il n'y a pas beaucoup de pays qui produisent du coltan. Et le coltan, c'est un minerai qui est trop prisé pour le moment. L'Est regorge beaucoup de richesses. Et pour cette raison-là, je crois que les gens pensent qu'il faut maintenir l'Est dans cette situation-là pour bien voler, pour piller, créer la situation de non-État pour qu'ils puissent y pénétrer et sortir quand ils le veulent. Nous sommes conscients de cela. La population congolaise est aussi consciente de cela. Et ils se soudent le coude pour que l'on ne puisse pas arriver dans une situation où un jour on dit on est fatigué, on baisse les bras. Donc main dans la main, gouvernement comme population, nous sommes conscients de la situation et tout le monde est déterminé à se battre jusqu'au bout pour que ce qui nous revient, nous revienne.
C'est sur cette note que s'achève Escale avec notre invité Zeno Mukongo Ngai, le ministre conseiller et chargé d'affaires intérimaires de la mission de la RDC auprès de l'ONU à New York. Escale est un magazine de la Radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani avec l'assistance technique de Florence Westergaard et de Carlos Macias. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.